Bonjour et bienvenue dans Blague à part, l'émission qui ouvre les portes du monde de l'humour. Et aujourd'hui, on ouvre cet épisode avec un humoriste qui va nous parler et nous en dire un peu plus sur l'écriture et la coécriture.
Blague à part, l'émission qui vous ouvre les portes de l'humour. Vous pourrez découvrir les coulisses du monde de l'humour à travers le regard de professionnels du milieu toutes les deux semaines, le jeudi à 18h sur le 93.9 et en podcast sur le site de radiocampusparis.org.
Et aujourd'hui, en première partie, on va recevoir Hugo Gertner, auteur et co-auteur. Et en deuxième partie, on reste avec lui, nous allons jouer au jeu du petit bac revisité. Et bonjour Hugo.
Bonjour.
Ça va ?
Très bien, merci.
Alors, tu es auteur de programmes courts humoristiques. On a pu t'apercevoir ton écriture à travers les voix des humoristes comme Mao Drama et Laura Domange. Tu as par la suite écrit la série Cousine avec Morgane Cadignan. Et dernièrement, tu es en train d'écrire une série qui s'appelle Anne d'Arc. Tu nous en parleras un peu, mais pas trop. Ouais. Et tu as aussi coécrit le spectacle Mauvaise graine de Marine Leonardi. Et tu es aussi humoriste. On en parlera un petit peu si tu en as envie.
Tout à fait.
On va commencer un peu par le début. Est-ce que tu as suivi une formation d'auteur ?
Tout du tout. Non, vraiment aucune formation. Aucune formation d'auteur. C'est possible d'en suivre. Il y en a qui existent en scénario, en plein de choses. Mais non, moi, j'ai vraiment rien suivi. J'ai toujours été un petit peu... J'ai toujours écrit des choses dans mon coin, écrit des histoires, des chansons pour des potes, des choses comme ça. Et après, non, j'ai vraiment pas suivi de formation. Je suis vraiment un peu formé tout seul. J'ai toujours été un peu geek des histoires. J'ai toujours aimé savoir comment on racontait des histoires, comment on écrivait des scénarios, comment on écrivait des films, comment on écrivait des séries. Et du coup, j'ai acheté moi-même des manuels, je me suis renseigné et puis j'ai commencé à en écrire et les choses sont faites comme ça. Et puis pour les blagues, pour le coup, il n'y a vraiment pas de formation qui existe. C'est soit tu écris des blagues, soit tu n'en écris pas. Quoi.
Et tu as commencé directement en stand-up pour écrire des blagues. Tu les as en tout cas montrées comme ça ou tu les as plus montrées à travers la radio, l'écriture
Non, j'ai vraiment commencé avec... Pour les blagues, j'ai vraiment commencé avec le stand-up. D'abord en anglais d'ailleurs, puis après en français. Et c'est vraiment comme ça que j'ai démarré. Et c'est comme ça, en fait, que assez rapidement, au bout de, je pense, de même pas deux ans, je me suis retrouvé à écrire pour le Grand Journal de Canal+, qui est une émission qui malheureusement n'existe plus. D'ailleurs, je fais la dernière saison. Voilà. Donc, s'il y a des producteurs qui veulent que leur émission s'arrête, vous m'embauchez. Et a priori, ce sera la dernière. C'était au bout de deux ans et c'était une histoire un peu rocambolesque où je me suis retrouvé en 24 heures à devoir changer de vie. J'étais analyste financier à l'époque et j'ai dû démissionner de mon taf en 24 heures, me retrouver sur cette émission qui était un peu tarée à l'époque parce que c'était vraiment, tu vois, là, même si elle était en gros déclin à ce moment-là en termes d'audience, c'était quand même le gros talk show en France. Et du coup, j'ai été jeté là-dedans en plus le jour du... Mon premier jour, c'était le jour d'un des plus gros scandales de l'histoire de l'émission. Bon, tout le monde a cru que c'était de ma faute, je te raconterai ça si tu veux. Et après, j'ai plus jamais arrêté. Et ça, c'était en septembre 2016.
Et comment tu as pu rentrer au Grand Journal, sachant que tu étais analyste financier avant ? Tu étais déjà sur scène, en fait ?
Ouais, j'étais déjà sur scène et des gens de l'émission, de Canal, m'avaient vu. Et du coup, j'ai été embauché, j'ai été recommandé par quelqu'un. Et j'ai été embauché immédiatement parce qu'en fait un auteur, c'était la première semaine de la diffusion de l'émission de cette saison-là, parce qu'un auteur, je crois, leur avait claqué entre les doigts et donc cherchait quelqu'un en urgence. Et en fait, il y a eu une espèce d'énorme concours de circonstances qui a fait que je me suis retrouvé chez eux en 24 heures.
Et donc les débuts de cette émission un peu chaotique, tu peux nous en dire plus ?
Ouais, bah c'est même plus que chaotique parce que littéralement le premier jour où je pose les pieds dans le bâtiment, donc qui s'appelle la Canal Factory, qui est un peu ce bâtiment un peu légendaire de Canal. C'était en fait le jour où ils recevaient Jonah Hill et Mel Seller pour la promo du film War Dogs, qui est d'ailleurs un film pas mal du tout que je vous recommande. Mais il se trouve que ce jour-là, la Miss Météo pour laquelle j'écrivais, qui s'appelle Ornella Fleury, avait fait une chronique qui a été, même si c'était vraiment une lettre d'amour à Jonah Hill, en réalité une lettre d'amour vache, mais une lettre d'amour quand même, a été très très mal reçue par Jonah Hill, qui a un peu pété un câble sur le plateau, et ça s'est vu. Et puis après, il s'est barré, il s'est barré en hurlant, il a cassé des trucs, machin. Et du coup, après, tout le monde a un peu pété un câble dans l'émission, parce que juste après, on apprend qu'il annule toute sa promo française, que, ah ouais, non, mais c'était n'importe quoi.
Oui, impressionnant.
Ouais, et il y a eu un moment, il y a eu un laps de temps où tout le monde sur l'émission, alors que moi j'avais donné ma démission de mon ancien taf, mais il y a eu une partie des gens de l'émission, de la prod, de machin, qui ont cru que c'était moi qui avais écrit la chronique. Alors que moi je venais d'arriver. Vraiment, je débarquais, je savais pas où étaient les toilettes, tu vois. C'était n'importe quoi. Et ils ont cru ça. Et du coup, après l'émission, je vois que ça se passe pas bien, mais je me dis, ben, c'est peut-être comme ça la télé, peut-être que ça se passe jamais bien. Peut-être que les gens partent toujours en hurlant, tu vois. Je sais pas. Je débarque, moi, je sais pas. Et donc, on me dit, non, mais bon, a priori, bon, bah voilà, il a fait sa crise, t'inquiète pas, il y aura pas de problème. Donc, ça, c'était un vendredi. Le lendemain, je vois qu'il y a des articles, parce qu'on me dit, non, mais t'inquiète pas, en plus, ça a pas, l'affaire a pas été trop reprise. Le lendemain, il y a des articles au Japon, au Brésil.
Au Japon.
Non, mais je te promets, parce que je tapais le truc et je voyais des sites japonais, tu sais, où c'était traduit automatiquement par Google. Mais des articles dans le monde entier sur ce qui s'est passé. Et là, je fais, oh, d'accord. Donc, j'essaye d'appeler. J'essaie d'appeler la prod, personne ne me répond. J'essaie d'appeler la chaîne, personne. J'essaie d'appeler les RH, personne ne me répond. Tu vois. Et là, je me dis, ah bah, c'est ça. En fait, ce qui va se passer, c'est, il faut un fusible, c'est moi. Donc, du coup, je vais me faire virer avant d'avoir été embauché. Et là, j'ai passé le pire week-end de ma vie. J'ai perdu 3 kilos en 3 jours. Je mangeais plus du tout. Et jusqu'au lundi, où finalement, les choses se sont un peu arrangées. On a écrit une chronique d'excuses, voilà. Et donc ça a été vraiment littéralement mon premier jour dans le show business.
Au moins, tu ne peux pas faire un peu pire, je pense. T'es arrivé par le plus gros.
Exactement.
Ok, et donc après, tu as été co-auteur pour d'autres humoristes par la suite.
Ouais. Bah, certaines que tu as mentionnées. Laura Domange, Mao Drama, Marine Leonardi, Camille Lavabre.
Et quand t'es co-auteur pour eux, t'es plus sur les radios, au côté radio, ou t'es aussi sur leur spectacle? Leonardi, je sais que t'es sur leur spectacle. Mao Drama, est-ce que t'as travaillé aussi?
Non, j'ai pas travaillé sur son spectacle à Mao, uniquement sur les chroniques qu'elle fait sur Quotidien. Le seul spectacle que j'ai vraiment co-écrit, c'est celui de Marine Leonardi. Et sinon, c'est vraiment, je fais beaucoup de chroniques, de sketchs, de magnéto en télé, de choses comme ça, ouais. Ça, beaucoup.
Et tu les as rencontrés en faisant des plateaux stand-up,
comme ça. Tout à fait, ouais, c'est vraiment fait comme ça.
Et c'était la question que je me posais, est-ce que les co-auteurs sont toujours des humoristes?
Non, pas toujours, non, du tout. Pas du tout. Je réfléchis en même temps que tu poses la question, parce que c'est vrai que je ne t'ai jamais posé. Ça arrive, mais en fait, j'ai l'impression que la plupart du temps, actuellement, ils ne le sont pas. Non, c'est vrai. C'est vrai. Ou alors, ils l'ont été un tout petit peu à un moment, ils ont essayé, puis finalement, ils sont revenus...
Oui, puis c'est important aussi pour se rendre compte de qu'est-ce que ça fait d'être sur scène pour pouvoir écrire pour quelqu'un. C'est quand même important de savoir ce que ça fait.
Ça peut, oui. Mais après, c'est... je pense que quand t'es co-auteur de quelqu'un, quand c'est vraiment ce que tu fais d'écrire des blagues et d'écrire des blagues pour quelqu'un, donc vraiment l'écrire dans sa voix, tu vois, où t'as vraiment une mini-personne dans ta tête que t'essaies de faire parler... je sais pas à quel point, au bout d'un moment, ça devient... Tu vois, c'est vraiment important de toi-même avoir fait de la scène plutôt que d'avoir vu cette personne sur scène et de voir vraiment ce qu'elle fait. Juste de... Tu l'as tellement vu qu'elle est un petit peu... qu'il y a une mini-version d'elle en toi, quoi.
Et avec, par exemple, Marine Leonardi, quand tu travailles avec elle, c'est des sessions d'écriture ou vous écrivez tous les deux de votre côté et vous regroupez par la suite?
Alors, au début, on faisait des sessions d'écriture à deux, beaucoup. Et là, comme les choses, ça a un peu explosé, elle est en tournée et elle a un emploi du temps un peu chaotique. Du coup, on fait des sessions à distance, des zooms, on s'envoie les trucs par mail. Ouais, c'est plus comme ça.
Et si tu devais donner un conseil pour quelqu'un qui aimerait travailler en tant que co-auteur, co-autrice, ce serait quoi?
J'en ai absolument aucun. Je suis désolé.
Faites votre route.
Ouais, non, mais vraiment parce que autant, tu vois, on parlait des formations avant. Autant pour être scénariste, il y a des formations, il y a des écoles, il y a des universités, tu vois, il y a des cursus pour ça. Pour être auteur, je connais pas deux auteurs qui ont le même parcours. C'est vraiment, si écrire des blagues pour quelqu'un, il y a vraiment aucune logique, aucune formation, aucun parcours type. C'est honnêtement, c'est très anarchique. Donc oui, si tu veux, c'est con à dire, mais si tu veux écrire des blagues, écris des blagues. Plutôt que d'essayer de devenir auteur, en tant que job, moi, la seule chose que je dirais, c'est écris des blagues sous n'importe quelle forme. Ça peut être toi, des trucs que tu fais sur Insta, que tu mets sur YouTube, sur Twitter, sur ce que tu veux. Et si tu trouves des gens drôles, essaie juste de te rapprocher de gens drôles, que toi, tu trouves drôles. Si tu as des potes même qui sont drôles, essaie de faire des trucs avec eux. Si tu vas dans des petits comédie clubs et qu'il y a des gens, essaie de leur parler. mais vraiment fais les choses en fonction de toi, de ce que toi tu trouves drôle, des accointances, des affinités que tu peux avoir avec les gens, mais essaye surtout pas de dire « alors comment on fait pour devenir auteur ?» Je pense que c'est une seule chose que je peux dire, c'est ça.
Et au niveau de... Parce que c'est quand même un exercice où tu dois répéter encore et encore et travailler, sauf que tu n'as pas de boss au-dessus de toi. Comment tu as trouvé un rythme d'écriture? Qu'est-ce qui t'a aidé?
Un rythme d'écriture? Ouais. Je ne sais même pas si j'en ai un encore.
Mais pas forcément un rythme en mode tous les lundis, tu fais un truc et tout. Genre, là, ça fait très corporate. Mais plus, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire et qui t'aide à écrire et à avoir une sorte de deadline, tu vois, peut-être?
Moi, j'ai tendance à me laisser un peu submerger par le boulot. C'est-à-dire que j'écris beaucoup. C'est vraiment tous les jours, j'écris. Je ne sais pas, en fait, si je m'impose un rythme ou si juste le rythme s'impose à moi. Parce que je veux dire, c'est que j'ai en permanence le sentiment de courir après ce que je dois faire. Donc, je suis obligé de travailler beaucoup, d'écrire beaucoup. Mais je n'ai jamais eu le sentiment de devoir m'imposer un planning, un rythme, des plages d'écriture, des... C'est juste, je suis dans la roue de hamster tout le temps, quoi.
Ouais, ok. Donc ça vient tout seul. Ouais. Et venir sur scène, est-ce que ça t'a aidé ou pas du tout tes débuts, je parle vraiment de tes débuts.
Ah, venir sur scène, bien sûr, non, mais
donner une deadline.
Complètement. Et j'ai passé plusieurs années sur scène, dans les comédie clubs, comme n'importe quel humoriste. Ce que je vais peut-être refaire, d'ailleurs, c'est jusque-là, vraiment, pour le coup, j'ai plus le temps du tout, comme je te disais. Mais oui, ça a été énorme. Et surtout, c'est ça qui a fait que non seulement j'ai vraiment pu écrire des blagues au début, c'est-à-dire qu'au début, je n'étais pas du tout co-auteur ou je n'écrivais pas pour des gens, j'étais vraiment... j'écrivais pour moi tout seul. Enfin, très vite, je me suis rendu compte que... Là, pour le coup, tu vois, tu parlais de discipline juste avant, là, pour le coup, pour le stand-up, il faut vraiment pouvoir s'imposer une discipline d'écriture très importante. Et je pense que c'est ça que j'ai vu, en fait, assez rapidement. Et puis surtout, ça t'aide le stand-up à... Je sais pas si c'est trouver ta voix, VOX, mais c'est surtout à un moment, t'arrives à. C'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais t'arrives à comprendre ce qui est drôle pour toi. C'est-à-dire qu'au début, en stand-up, c'est normal, tu vois, t'essayes de faire un peu ce qui marche, de dire, mais attends, mais c'est tellement terrifiant d'être sur scène que t'as pas forcément nécessairement envie de t'exprimer toi-même tout de suite. C'est-à-dire, mais qu'est-ce que je dois faire pour pas subir la pire honte de ma vie, tu vois. C'est vraiment ça au début. Et donc, les gens, ils parlent de quoi en ce moment? De Tinder. J'ai parlé de Tinder. Les gens, ils parlent du métro, de la politique, de l'actu, de je sais pas quoi, tu vois. Je vais essayer de faire des blagues là-dessus. Et puis, au fur et à mesure, en fait, par érosion, tu finis par dire, non, il faut que j'ai envie de parler de trucs qui, moi, me font rire, qui, moi, me tiennent à cœur, non pas au sens du message, juste au sens de j'ai envie de me faire rire aussi.
Et est-ce que écrire de l'humour, ça t'apporte des déformations professionnelles?
Ah ouais, ouais.
Dans quelle situation?
Ah non, mais tout le temps. C'est-à-dire que tout le temps, le premier réflexe que tu vas avoir pour n'importe quoi, c'est de te dire, d'avoir des blagues qui te viennent immédiatement là-dessus. Dans la vie, quand tu regardes des trucs d'actu, quand t'es avec des potes et qu'il y a une discussion. Et du coup, oui, du coup, ça amène forcément un décalage. Ça peut amener des situations un peu gênantes.
T'en as eu dans tête?
Avec les gens. Est-ce que j'ai des situations... Non, à part des... Mais en fait, le plus souvent, c'est on n'est pas et je suis pas, je pense, totalement sociopathe. Les trucs qui vont te venir en tête, tu vas pas les dire. Mais juste, ils vont te venir en tête. Tu vois, il y a quelqu'un qui va parler de la mort de sa grand-mère, quelqu'un qui va parler de je sais pas quoi. Et tu sais pas pourquoi, tu vas avoir des blagues qui vont te venir. Et du coup, le fait même qu'elles te viennent en tête, ça va un peu t'éloigner de la conversation. Tu vas plus être exactement... dans le même mood que les gens qui vont être dans l'empathie, qui vont être machin, toi tu vas te mettre un peu en retrait. Et du coup, parfois on va avoir l'impression que t'es un peu détaché, parfois un peu autiste, parfois un peu... alors que c'est juste que tu peux pas... Voilà, c'est vraiment une déformation professionnelle. Ou même, en réalité, je sais même pas si c'est une déformation professionnelle ou si c'est précisément cette déformation qui a fait que t'es devenu professionnel.
Tu m'as parlé précédemment d'avoir eu à un moment donné, tu t'es détaché de cet humour un peu qui allait faire rire parce que tu avais besoin de te sentir bien sur scène, tu t'en es détaché. Tu penses que ça t'a pris combien de temps pour t'en détacher, essayer de trouver un peu plus ta voix, VOIX?
Très sincèrement, je sais même pas si je l'ai encore trouvé. Quand j'ai commencé à faire vraiment moins de stand-up, j'avais le sentiment que je commençais à trouver quelque chose. Et puis quand t'écoutes les vrais patrons de ce game du stand-up, que sont plutôt les comiques américains, simplement pas parce qu'on serait moins bon. En France, dans l'absolu, juste qu'ils font ça depuis beaucoup plus longtemps. J'ai l'impression, réponse moyenne, quand tu demandes à des comiques américains très, très capés combien de temps il faut pour faire un comique, la réponse moyenne, c'est 20 ans.
Ah ouais.
Ouais.
Sacré truc.
Ouais. Et ça fait, tu vois, et en France, ça fait pas 20 ans que le stand-up existe juste. Donc tu vois, c'est une différence de perspective qui est un peu difficile à combler, je trouve, entre les deux.
Et en termes de rythme, on a pu voir un peu deux équipes sur tous les humoristes qu'on a pu recevoir. On va vraiment grossir les traits, mais il y en a un qui aime bien enchaîner les blagues et il y a ceux qui aiment bien apporter un peu un moment de gravité. Est-ce qu'il y a une équipe qui t'attire un peu plus que l'autre ?
Je sais pas si je le dirais comme ça, en fait. C'est juste que soit tu considères qu'on peut tout faire avec le rire, qui est un débat que je trouve valable d'ailleurs, mais cette idée qu'en faisant des blagues, tu peux donner ton opinion, tu peux faire réfléchir, tu peux faire avancer certains débats. Il y a des blagues qui ont fait vraiment avancer des débats, tu vois. Si en fait tu mets des moments de gravité, c'est que en creux, ce que tu dis, c'est non mais là on va parler de choses sérieuses. Et tu dis oui mais on peut faire ça avec les blagues aussi. Je suis pas en train de dire mais non mais tout doit passer par là. C'est pas ça. Mais si tu fais du stand-up, pour moi, le premier but, très loin, très très loin devant tous les autres, ça doit être de plier la salle. Et après, mais vraiment très loin, on peut discuter d'autres choses. On peut discuter de faire passer un message, on peut discuter de donner ton point de vue sur le monde, de vraiment, et là, mais première chose, c'est les gens doivent être morts de rire. Et après, on discute.
Est-ce que ce rajout d'un moment un peu plus dramatique dans un spectacle d'humour, ce serait pas une spécificité française ? Parce que je le vois peu aux États-Unis.
On n'a pas la même tradition de scène en général et de rire en particulier. C'est-à-dire que nous, effectivement, on a les chansonniers, on a le vaudeville, on a toute une série de choses qui est pas moins noble que celle des États-Unis ou de n'importe quel pays. Tu vois, c'est juste que c'est notre tradition. Et on a aussi une tradition de seul en scène, qui effectivement a une palette plus large de rire, de mise en scène, de musique, de ce que tu veux, de moments plus graves, comme tu disais. Donc de ce point de vue-là, oui, c'est vrai. Après, aux États-Unis, je trouve notamment depuis quelques années, il y a eu une diversification et une espèce de, je ne sais pas si on pourrait parler d'élargissement du stand-up, mais en tout cas, il y a eu une hybridation avec des spectacles qui couvrent une palette plus large.
Et tu as travaillé donc en tant qu'humoriste, en tant qu'auteur, co-auteur pour des humoristes, et dernièrement, tu as aussi fait des séries. Et qu'est-ce qui va être la plus grosse différence entre un format court que tu fais comme ça, avec des petits sketchs, et là, ce format long ?
Alors vraiment, c'est là, pour le coup, c'est vraiment, vraiment, pour moi en tout cas, deux choses qui ont rien à voir. Et tout le monde ne sera pas d'accord avec ça, je pense, d'ailleurs. Il y a des gens qui te diront, non, il y a de la continuité entre les blagues et les histoires. Et je peux le comprendre d'un certain point de vue, mais d'un autre, il y a vraiment, tu vois, je te disais que pour le stand-up, c'est d'abord tu plies la salle de rire, après on discute. Là, pour le scénario notamment, il y a vraiment un impératif de construction, de structure, d'efficacité narrative de ce que tu fais. Il y a des humoristes, tu vois, qui le font naturellement, d'ailleurs aussi pour des humoristes ou pour eux-mêmes, tu vois, qui racontent des histoires sur scène qui sont marrantes, mais raconter une histoire dans un format ou pour des médiums qui sont très cadrés comme la télé ou le cinéma, en réalité, c'est pour moi une discipline qui est quand même très différente. Et après, les blagues viennent se mettre dessus et ça peut même, tu vois, être plus en amont dans le process. Quand tu vas créer des personnages marrants ou tu sais ce que tu vas leur faire dire, des situations qui vont être marrantes, mais il faut savoir raconter une histoire. Ben, à la fin, ce que t'auras fait, ça restera pas, en fait. Je crois que c'était un humoriste qui avait dit ça, mais je sais plus lequel, qui disait, un peu résigné, mais l'humanité se débarrassera des blagues avant les histoires.
Jolie phrase.
Mais je le pense vraiment. C'est beaucoup plus essentiel à ce qu'on est, en tant qu'espèce animale, les histoires que les blagues. Vraiment.
Et c'est donc ça qui t'a aussi attiré à faire des séries, un peu.
Et aussi ce truc, je te disais, où j'ai un peu toujours été fasciné par la mécanique des histoires. Et de façon générale, même pour les blagues, en réalité. C'est-à-dire que pour les blagues, il y a ce truc qui est très immédiat. Donc oui, soit tu sais faire des blagues. J'ai pas envie de te dire soit t'es drôle, soit t'es pas drôle, mais en fait c'est un peu ça. Mais après, une fois que t'as eu, je sais pas comment dire, que la blague elle te vient, alors oui, tu peux la retravailler et oui, il y a de la mécanique dedans. Et d'ailleurs, ça m'énerve beaucoup les humoristes, les auteurs qui nient ça un petit peu. Qui sont là, non, mais moi, j'écris des blagues et je suis drôle et J'arrive sur scène et ça sort comme ça, ou je suis en train de réfléchir tout seul et puis ça sort comme ça, et puis j'essaye, et puis il n'y a pas à réfléchir à ça. Tu dis, si, bien sûr qu'il y a à réfléchir à ça. Bien sûr qu'il y a une part très mécanique dans le rire. Bien sûr qu'il y a des procédés, bien sûr que... Et bien sûr que si tu peux améliorer des blagues en y réfléchissant consciemment, bien sûr.
Oui, on peut penser au théâtre d'improvisation qui en soi, ils arrivent et ils donnent un texte, mais derrière, il y a tellement de travail.
Exactement.
Et c'est juste que c'est pas montré, c'est peut-être moins visible aussi.
Complètement, complètement. Mais t'as complètement raison, sur l'improvisation, il y a tellement de techniques, de modes opératoires en groupe, en plus, parce que là, tu dois créer en groupe, ce qui est encore autre chose. Et puis oui, tu vois que c'est un muscle en réalité, et qu'au fur et à mesure, ils vont avoir leur procédé, déjà eux-mêmes et entre eux, sur comment ils vont là aussi raconter une histoire, parce que là pour le coup en impro t'es quand même obligé de faire un sketch et du coup il va y avoir une histoire, il va y avoir que des blagues, et oui complètement, il y a un peu la même chose, et d'ailleurs tu vois qu'aux États-Unis, en France on a un théâtre d'improvisation qui est assez riche, mais c'est assez dingue de voir qu'aux États-Unis la quasi-totalité ou la grande majorité de tous tes acteurs comiques préférés sont tous passés par là.
Ils ont tous débuté par le théâtre d'improvisation.
Bah, l'impro aux États-Unis c'est un truc énorme, tu vois, avec des choses comme Second City, dans chaque ville, t'en as un, tu vois, à New York, ça s'appelle Citizens Brigade, à Chicago, c'est Second City, à Los Angeles, c'est les Groundlings, et de ça sont sortis Will Ferrell, Tina Fey, Amy Poehler, Steve Carell, Stephen Colbert, enfin, tu vois, tous ces gens-là, ils sont sortis d'une de ces trois écoles, qui sont en fait même pas des écoles, qui sont des espèces d'institutions, il y a ça, tu vois, des institutions avec des... Mais t'as des problèmes, c'est un truc quasi... scolaire, voire militaire, en réalité, quand tu regardes le truc, où t'as des niveaux que tu passes, tu vois, premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, et à la fin, t'essayes d'auditionner pour être dans la troupe principale du truc, qui fait un show tous les dimanches, et c'est genre le gros truc. À New York, t'as des littéralement des teams, tu vois, t'as des équipes, qui s'appellent des mod teams, tu vois, où c'est, genre, tu peux auditionner pendant des années pour faire partie de cette troupe, sachant que tout ça, c'est pas payé, hein. C'est-à-dire que tu fais ça vraiment pour l'amour de l'art, quoi. Et c'est ultra prestigieux.
En fait, c'est une sorte de conservatoire de théâtre d'improvisation,
ouais,
un peu. On va passer à la dernière question que je pose à tout le monde. Quel conseil ne t'a pas aidé dans ton parcours, dans ton processus créatif ? Quelqu'un qui t'aurait dit quelque chose et tu te dis par la suite, oh, c'était une très mauvaise idée. Pour toi ?
Ben, je crois justement que c'était... je ne dirais pas qui c'était, mais c'était dans mon premier job que j'avais eu justement à la télévision. Quelqu'un qui m'avait dit l'inverse de ce que je t'ai dit au début, à savoir « Non mais Hugo, c'est important de faire ce qu'on attend de toi. » Et il le disait vraiment en mode « Rêve pas trop, quoi. » C'est-à-dire, si te faire une place dans ce milieu, si tu veux réussir à quelque niveau que ce soit, on est d'abord et avant tout au service d'eux. Il le formule un peu comme ça, c'est un peu narcissique et prétentieux de vouloir d'abord te faire rire toi, de vouloir d'abord faire ce qui toi te plaît. On est d'abord là pour servir d'autres gens, pour servir d'autres intérêts, d'autres projets, fais ce qu'on attend de toi. Ça, je pense que c'est vraiment le plus mauvais conseil qu'on m'ait jamais donné.
Bah, merci beaucoup de nous avoir parlé de ton parcours. On retrouve ton écriture dans le spectacle Mauvaise Graine de Marine Leonardi au Théâtre des Variétés. Et Hugo est toujours avec nous pour la deuxième partie de cette émission, le petit bac revisité. On va jouer au petit bac classique, mais avec des catégories inédites, comme le nom d'un slogan d'un lobby qui milite de s'aimer soi-même, le titre d'une chanson de Laurent Voulzy. Et ça commence toujours par la même lettre. La grande nouveauté, c'est qu'on peut inventer des réponses tant qu'elles sont drôles. On va choisir au hasard une lettre, je vais lancer dans l'alphabet dans ma tête, et Hugo, tu me dis stop quand tu le sens. Ok, on commence à...
Stop.
W.
Ah merde.
Tu veux qu'on recommence ou
vas-y, alors W, c'est parti.
Ok, on va garder W. Si les auditoristes veulent jouer avec nous, voici les catégories. Il y a un nom cliché de femme du Moyen-Âge, le titre d'une chanson qui n'a pas compris son sujet, une série d'été sur France Télé, la phrase cliché des personnes qui travaillent dans la finance, un nouveau cours rajouté au programme de l'éducation nationale. On va se laisser le temps d'une petite pause musicale pour écrire nos réponses et on se retrouve juste après.
You think that I shouldn't still love you, I'll tell you that. But if I didn't say it, well, I'd still have felt it. Where's the sense in that? I promise I'm not trying to make your life harder. I'll return to where we were. I will go down with this shame.
revient pour le petit bac revisité et on va redire un peu les catégories. On avait la lettre W, il y avait un nom cliché de femme du Moyen-Âge, le titre d'une chanson qui n'a pas compris son sujet, le titre d'une série d'été sur France Télé, la phrase cliché de personnes qui travaillent dans la finance et un nouveau cours rajouté au programme de l'éducation nationale. Hugo, t'as trouvé quoi pour le premier, un nom cliché de femme du Moyen-Âge ?
Moi j'ai vu une égonde. C'est comme qu'une égonde, mais elle court très très vite.
Pas mal. J'aime beaucoup. Moi, j'avais un truc un peu plus au premier degré de Violette, le grand, du petit, du gros, du fin. Tu vois, des noms à la rallonge.
Tout à fait.
Et Violette avec un W, parce que pourquoi pas. Le titre d'une chanson qui n'a pas compris son sujet.
Moi, j'avais Excuse-moi, je te coupe, une chanson sur les dangers du mansplaining.
Ah, très bien, très bonne. Moi, j'étais
j'ai triché à chaque fois, hein, je te préviens.
Tu peux, mais c'est fait pour. Il y a pas de souci. Avec un W, tu peux tricher comme tu veux. Moi, j'en avais un où c'était pas vraiment qu'il a pas compris son sujet, c'est juste qu'il est un peu con-con. Le Where is my money, caché en Suisse, le numéro de mon compte, c'est 51 28 30 08.
Effectivement.
Voilà. Le titre d'une série d'été sur France Télé.
C'est Waouh, cette fois, on va se disputer à la grande motte.
J'aime bien. Ça fait très... on est à la campagne, la grande motte, des choses comme ça.
Ouais. En vrai, je crois que je ne sais même pas exactement où c'est la grande motte.
Moi non plus,
je trouve que c'est très rigolo.
Ouais, oui, je comprends. Ouais, moi, j'avais Virame-sur-Loire, l'été de tous les crimes.
Ouais, parfait.
Un classique. La phrase cliché de personne qui travaille dans la finance.
C'est Venceslas, je t'ai dit que la coke était dans le tiroir du bas.
Venceslas, c'est quoi ?
Venceslas.
C'est quoi Venceslas ?
Je crois que c'est un vieux nom. Je ne sais même pas d'où ça vient exactement. Venceslas, c'est pour moi un nom noble, peut-être un peu germanique, mais c'est un nom, c'est un nom noble. Ouais. Non. C'est un prénom, Venceslas.
Ah oui, ah d'accord, ouais. Ok. Moi, j'avais, pour ceux qui convertissent les gens à la crypto-monnaie, j'avais Wololo. Wololo, qui est une référence à Age of Empires pour ceux qui l'ont. À la suite, il y a un nouveau cours ajouté au programme de l'éducation nationale.
C'est Where is Brian ? C'est un cours d'anglais où on traduit tous les sketchs de Gad Elmaleh.
J'avais Wagon Bar, un cours qui t'apprend à être employé polyvalent pour préparer au job étudiant.
Ah ouais, voilà. Aussi. Mm. C'est des étudiants, les Wagon Bar ? Non.
Je ne sais pas, mais il fallait avec W, j'ai
oui,
vu tricher, sinon
W,
j'aurais
c'était
mis.
Très compliqué.
Merci beaucoup, en tout cas à toi, de t'être confié au micro de Blague à part. On te retrouve sur Instagram à Hugo Gertner. Merci à vous, auditeuristes, d'avoir écouté Blague à part. Et malheureusement, c'est la fin, mais on se retrouve dans deux semaines, toujours à 18h sur le 93.9.